Courbe humblement la tête, sycambre. Brûle ce que tu as adoré et adore ce que tu as brûlé. Parole placée dans la bouche de l'évêque Rémy par Grégoire de Tours à l'occasion du baptême de Clovis.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Clovis est le fils du roi Childéric, un Germain placé au service de Rome. Il est installé dans le nord de la Gaule et a mis son armée à la disposition des généraux romains pour combattre tout particulièrement les Visigoths et les Saxons. À ce moment-là, la Gaule se présente comme une véritable mosaïque de peuples. Au nord, les petits royaumes saliens, à l'est, ceux des Tongriens, des Francs rhénans de Cologne et au-delà du Rhin, les Alamans. Au sud de la Loire se trouvent les Visigoths, en particulier qui font de Toulouse leur capitale. Entre la Somme et la Seine, le général romain Syagrius, qui se dit « roi des Romains », maintient à Soissons l'illusion d'une présence impériale en Gaule. Mais en fait, le véritable chef de cette région, que l'on appelle dans le vocabulaire administratif romain la Belgique seconde, est Childéric, qui se fait appeler roi, comme l'indique l'anneau trouvé dans sa tombe à Tournai, sur lequel est inscrite l'inscription « Childéric Regis ». Lorsqu'il meurt, il transmet son pouvoir à son fils Clovis, alors âgé de 15 ans. Clovis est un personnage qui, dans la mémoire scolaire et collective des Français, a marqué. On le présente des fois comme l'initiateur de ce qu'on appellera plus tard la France. On peut discuter bien sûr de cet aspect, mais ce qui est vrai, c'est qu'il va prendre une décision importante, c'est la décision d'être baptisé dans la foi catholique. Parce qu'effectivement, nous sommes à un moment où la Gaule, et d'ailleurs en général l'Occident, est partagée entre une autorité romaine qui s'est définitivement effondrée en 476 et des populations germaniques qui se sont installées dans tout l'ancien Occident romain. Nous avons les Vandales qui se trouvent en Afrique, les Visigoths à cheval sur les Pyrénées, entre la péninsule ibérique et le sud-ouest de la Gaule. Il y a le royaume des Burgondes, dans l'actuelle Bourgogne et jusque en Provence. Et puis le royaume de Syagrius, auquel il a été fait allusion tout à l'heure. Et, plus au nord, Clovis et le royaume des Francs. En fait, Clovis va avoir une véritable politique d'expansion. Il réussit à triompher de Syagrius en 486, et le vaincu va d'ailleurs trouver refuge dans le royaume des Visigoths. C'est à cette occasion d'ailleurs que se déroule l'événement que des générations de Français ont étudié dans leur manuel scolaire, l'affaire du vase de Soissons. On peut en dire un mot. En fait, effectivement, ce qui s'est déroulé, c'est qu'à la suite donc, de la bataille, il y a dû y avoir des pillages. Et il est probable que certains guerriers francs aient pris du butin dans une église et que des vases servant à la liturgie aient été volés à cette occasion. Or, ce qui se passe dans la tradition franque, c'est qu'on tire au sort et chacun reçoit sa part du butin suite à la victoire. Or, Clovis a préféré finalement tuer un de ses guerriers et rendre à l'évêque Rémy le fameux vase sacré, plutôt que de respecter la coutume guerrière du partage. Il a, en ce moment-là, fait un signe favorable en faveur de l'Église, en trahissant peut-être pour un temps la tradition du partage entre guerriers, mais au profit d'un geste amical vis-à-vis d'un évêque de l'Église catholique. Ensuite, il y a donc la question du baptême. Arrêtons de discuter sur la date. Traditionnellement, on aborde le baptême avec la date de 496. À vrai dire, on n'en est pas sûr. Il est possible qu'il ait été baptisé en 498 et certains historiens vont même au début du VIe siècle pour trouver la date du baptême. Bon, peu importe. Ce qui est important, c'est qu'il a donc été baptisé. L'influence de sa femme a peut-être joué. Clotilde, qui est la nièce du roi Gondebaud, qui, à la différence de ses parents, est de religion arienne, elle est catholique. Effectivement, Clotilde, catholique, a pu influencer Clovis vers le baptême. À quelle occasion s'est-il décidé ? Alors, il y a effectivement une pieuse tradition rapportée par Grégoire de Tours qui nous dit que c'est à propos de la bataille contre les Alamans qui a été victorieuse pour Clovis que le dieu de Clotilde aurait donné finalement la victoire à Clovis. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres raisons ? Il est possible qu'il y ait d'abord un attrait pour la foi chrétienne, donc des raisons spirituelles. Et puis ensuite, il est possible qu'il y ait eu des questions politiques. Au-delà des questions donc d'influence de son épouse, voire même des attraits spirituels pour le christianisme, se posent effectivement éventuellement les motivations politiques du baptême de Clovis. Est-ce que Clovis aurait voulu renforcer son autorité auprès des Gallo-Romains, qu'il était en train de dominer ? D'autre part, désirant conquérir déjà l'Aquitaine wisigothique, aurait-il répondu à l'appel des évêques catholiques persécutés par le roi arien Alaric II, et donc le baptême dans la foi catholique lui aurait apporté l'appui de l'Église pour la conquête donc du sud-ouest de la Gaule. Disons-le, en l'état actuel de nos connaissances, il est difficile de trancher sur ces questions politiques. On ne peut pas les écarter d'un revers de main. Il est fort possible que Clovis ait eu, je dirais, une réflexion sur la manière d'assurer son autorité sur les populations catholiques et avoir également l'appui de l'Église pour sa conquête contre les Visigoths. Donc il faut sans doute allier influence personnelle, influence spirituelle et puis intérêt politique. Ce qui est vrai, c'est qu'il n'est pas baptisé seul. Sa sœur est baptisée avec lui et des milliers de guerriers, comme c'était d'ailleurs souvent la coutume, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le chef se convertissait, c'était quasiment l'ensemble des guerriers qui le suivaient. Cette cérémonie a eu lieu à Reims pendant la nuit de Noël, à une date donc qu'il est tout à fait difficile de déterminer, acceptons l'idée de 496, sans en être tout à fait sûr. C'est l'évêque Rémy qui a instruit Clovis et qui l'a baptisé. Et donc, à la suite de ce baptême, il aurait eu cette phrase citée déjà, « Courbe humblement la tête, brûle ce que tu as adoré et adore ce que tu as brûlé. » Ce qu'il faut bien voir, c'est que, indéniablement, l'Église catholique soutient à ce moment-là Clovis. Une lettre nous a été conservée grâce à Grégoire de Tours, c'est l'évêque Avit de Vienne, dans le Dauphiné, qui écrit dès le lendemain du baptême au roi des Francs. Il commence par le féliciter d'avoir résisté aux schismatiques, c'est-à-dire aux ariens, puis d'avoir adopté le catholicisme. En faisant un choix pour vous, vous avez tranché pour tous. Votre choix est notre victoire, écrit le prélat. Il compare d'ailleurs Clovis à l'empereur romain d'Orient, Anastase, monté sur le trône de Byzance en 491, et qui, à cette époque, s'était réconcilié avec l'Église catholique. Suit l'évocation du déroulement du baptême la nuit de Noël, la tête redoutable au peuple qui s'est courbé, la chevelure qui s'est revêtue du casque de l'onction sainte, dit l'évêque de Vienne, allusion sans doute à l'onction post-baptismale qui n'a rien à voir avec le sacre royal qui n'apparaîtra qu'au 8e siècle. Ainsi, Avit souhaite que Clovis puisse convertir les peuples païens encore dans l'ignorance et qui n'ont pas été corrompus par aucun germe de mauvais augure, je cite l'évêque de Vienne. La vocation missionnaire des rois francs est ainsi clairement établie. Il faut voir que ce baptême a été effectivement important, parce que dans l'Occident qui n'est plus romain, mais qui est partagé finalement entre des influences de populations germaniques, le peuple franc est le premier à devenir catholique. Et non pas arien, car effectivement, cette querelle autour de l'arianisme, qui consistait à dire que le Christ n'était pas égal au Père, avait fracturé la chrétienté de ce temps. En adhérant à la foi catholique, les Francs sont devenus les peuples chéris, bénis par l'Église à ce moment-là. Et tout ceci explique aussi que dans la tradition de la monarchie française, on ait pu parler finalement d'une monarchie du trait chrétien, même si le terme apparaîtra plus tard, et dire, quelques siècles plus tard, que la France était bien la fille aînée de l'Église, parce que son premier souverain, ou en tout cas le premier souverain considéré comme tel, avait adopté le catholicisme par son baptême.